Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Je vous propose d'ouvrir tout de suite dans Romains chapitre 12. Romains 12. Au verset 2, et on va poursuivre encore un petit peu dans une série qu'on a commencé depuis maintenant plusieurs semaines, qui s'intitule « Rénovation mentale ». Rénovation mentale. Et on a commencé à étudier plusieurs choses dans la parole de Dieu sur nos pensées, sur notre mentalité, sur plusieurs choses que le Seigneur nous fait découvrir, nous fait connaître dans sa parole. Et j'aimerais qu'on relise juste ce passage de référence, Romains 12, verset 2. Et ensuite, on va continuer à voir où est-ce que le Seigneur va nous amener. Romains 12, verset 2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a vu ensemble plusieurs choses déjà. On a vu que ce passage, en fait, nous appelle à ne pas juste rentrer dans qu'on pourrait appeler le moule du temps présent, des habitudes, du modèle social dans lequel nous vivons, mais à être transformé. Et transformé comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. On a vu que se transformer, c'est le terme métamorphose. C'est le même processus qui fait qu'une chenille devient un papillon. Donc Dieu désire que nous puissions être totalement changés, fondamentalement transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a vu que le renouvellement de l'intelligence, ça passe principalement par un travail sur nos pensées. Et on a déjà commencé à regarder pas mal de choses ensemble. On a commencé à étudier avec plusieurs passages bibliques et je vais juste essayer d'être bref dans le résumé pour pas prendre trop de temps ce matin. Mais on a vu que nos pensées, notre mental fonctionne en permanence et que nous développons ce qu'on peut appeler des images intérieures. C'est-à-dire que régulièrement, lorsque nous pensons à quelque chose, ça va susciter une image dans notre mental, dans notre psychique, si on veut dire, dans notre intérieur. On va avoir une image de quelque chose. Lorsque je dis un mot, ce mot, il a une signification parce qu'il véhicule une pensée. Et cette pensée produit quelque part une image en nous-mêmes. Et on a vu également que nous pouvons nourrir différentes images intérieures. C'est-à-dire comment je me vois, comment je me projette. Si un instant je ferme les yeux et je pense à mon avenir professionnel, par exemple, quelle image j'ai sous les yeux ? Est-ce que je me vois au chômage en train de pointer au Pôle emploi? Même si, Dieu merci, le Pôle emploi est utile, mais si on n'en a pas besoin, c'est encore mieux. Ou bien est-ce que je me vois être excellent dans mon travail, être reconnu par mes collègues et progresser? Est-ce que dans ma vie familiale, si peut-être c'est difficile, lorsque je regarde, est-ce que je vois qu'on va à la détresse certaine, je vois que les relations se dégradent et que c'est terrible? Ou bien est-ce que je vois une famille épanouie, je vois des personnes qui s'entendent, qui progressent et qui vont de l'avant. Et ainsi dans tous les domaines. Donc il y a une image intérieure que nous nourrissons. Et on a vu à travers la parole de Dieu que quelqu'un est semblable à la pensée de son cœur. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est ce vers quoi je vais me porter. Et l'image que je contemple, c'est ce que je vais devenir. On a vu des exemples bibliques sur combien ce que nous contemplons, ce que nous regardons, nous sommes transformés dans la même image. C'est-à-dire que si je reste fixé sur une image de défaite, je me porte vers la défaite. Si je reste fixé sur une image de réussite, je suis peut-être dans la défaite aujourd'hui, mais je suis en train de progresser, de me porter vers la réussite. On a parlé ensuite d'une autre réalité que j'avais intitulée « Connecté par nos pensées ». On avait vu dans plusieurs passages, et surtout à partir de Romains chapitre 8, que l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et ce terme « affection », en fait, ce sont les choses qui nous préoccupent, et on a vu d'ailleurs dans une autre version de la parole, la version Darby qui est beaucoup plus proche de l'original où il est dit la pensée de la chair c'est la mort et la pensée de l'esprit c'est la vie. Donc on voit que ce que nous pensons, les pensées que nous nourrissons, nous nous connectons à l'objet de ces pensées. Et on peut parfois se rendre compte, même dans la vie courante, certaines personnes qui, à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, sont en train de penser, il pourrait m'arriver un accident, il va m'arriver un accident un de ces jours. Au bout de quelques temps, très régulièrement, il leur arrive un accident. Et parfois, on entend quelqu'un qui a fait un accident. Par exemple, la moto, il fait un accident, vous le voyez quelques temps plus tard et vous dites, mais ça me surprend pas tellement parce que c'est quelqu'un qui partait toujours en se disant tôt ou tard j'aurai un accident. Et j'ai entendu des gens dire que c'est vrai que la moto c'est dangereux, mais j'ai entendu des gens dire que de toute façon, si vous montez à moto, vous êtes sûr d'avoir un accident. Mais si vous nourrissez une telle pensée, je vous garantis que vous aurez un accident. Nous nous connectons à l'objet de nos pensées. On a vu également qu'à travers nos pensées, nous pouvons nous connecter à la présence de Dieu ou au contraire nous ouvrir à d'autres influences aussi de ce monde ou pire encore des influences démoniaques parce que nous savons qu'il existe aussi un monde des ténèbres et que lorsque la Bible nous exhorte à méditer sur les bontés de Dieu, lorsque la parole nous montre par exemple d'être sur notre couche, à repenser, à nous repasser les bienfaits de Dieu, lorsque la parole nous dit « tais-toi et médite sur la bonté de Dieu », c'est quoi? C'est qu'il y a une réalité dans le fait de nourrir des pensées au sujet de Dieu, de penser à la bonté de Dieu, penser à ses bienfaits. Et quand nous le faisons, la présence de Dieu commence à agir sur nous. Quand nous le faisons en assemblée, c'est l'exemple très flagrant, comme nous venons de le faire. Nous commençons, on se retrouve. Bien sûr, on vient dans la pensée d'adorer Dieu, de passer un temps dans la communion fraternelle. Mais quand nous commençons à chanter des chants, à fermer nos yeux, à penser réellement à ce que nous chantons, « Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es saint », qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on réalise quelque chose de la sainteté de Dieu. Et ça nous met dans une atmosphère et on se met dans une position d'adoration et la présence de Dieu commence à agir sur nous. Le Saint-Esprit peut commencer à travailler dans nos vies parce que nos pensées nous connectent à leur objet. Ensuite, on a parlé plus précisément de fixer nos pensées ou de ce qui devrait être l'objet de nos pensées. Et on a vu qu'il est important de ne pas permettre à nos pensées de divaguer, de partir dans toutes les directions, mais que la parole nous engage à veiller sur l'objet de nos pensées et qu'elle nous donne un cadre pour ce qui doit avoir accès à nos pensées. On a vu plusieurs passages, notamment dans Philippiens, où il nous parle que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, digne de louange, honorable, respectable, pur, soit l'objet de nos pensées ou bien occupe nos pensées. Donc nous pouvons veiller sur ce qui accède à nos pensées et en nourrissant les bonnes pensées, nous pouvons progresser, aller de l'avant et vivre cette rénovation mentale. On n'est pas obligé de penser n'importe quoi. On n'est pas obligé d'accueillir n'importe quelle pensée qui nous passe par la tête. Il y a des pensées qui arrivent, qui nous assaillent, mais nous avons le choix et même la responsabilité de rejeter les pensées négatives, les pensées destructrices et à la place de nourrir la pensée conforme à la pensée de Dieu. Pensée de succès, pensée de réussite, pensée de vie, pensée de guérison, pensée de provision, etc., etc. Et puis, on a, la semaine dernière, commencé à donner quelques coups à ce qu'on a appelé les forteresses de nos pensées à partir de la parole de Dieu. Et c'est ce dans quoi on va continuer un petit peu aujourd'hui. Et c'était abattre les forteresses à notre sujet. On a vu dans la parole qu'à un moment, l'apôtre Paul déclare « Nous abattons les forteresses et nous nous levons contre tout raisonnement pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et très souvent, en tant que bon chrétien, peut-être bon pentecôtiste ou bon charismatique, ou je ne sais pas l'arrière-plan que vous avez, mais on aime bien abattre les forteresses en chassant toutes sortes de démons, en envoyant toutes sortes de sang de Jésus, de paroles de Dieu, de piment, j'ai même entendu dans certains endroits, sur les démons pour les chasser. C'est une chose, mais il y a certaines choses qui ne sont pas de l'ordre du combat avec les démons, il y a des choses qui sont de l'ordre du combat avec ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire avec nous-mêmes, avec ce que la Bible appelle aussi le vieil homme. Et très souvent, on est tellement spirituel, et je dis parfois que certains sont plus spirituels que le Saint-Esprit, qui voient des démons partout, qui vont chasser, combattre beaucoup de choses là où il n'y a rien du tout, et pendant ce temps, ils oublient de s'occuper de cette chair qui est eux-mêmes, où ils doivent faire un travail, où ils doivent renouveler leurs pensées, où ils doivent se laisser transformer par la parole de Dieu, où ils doivent accepter ce que Dieu dit et aller de l'avant. Je crois profondément qu'il existe un diable, au même titre qu'il existe un Dieu. Je crois qu'il existe des démons au même titre qu'il existe Dieu, mais je crois surtout que toutes ces puissances, le diable et ses petits copains ont été vaincus une fois pour toutes, le jour de la croix, et je crois qu'on a mieux à faire que de combattre des combats qui sont déjà remportés. Il vaut mieux qu'on s'occupe de ce que Dieu nous dit, de ce dont Dieu nous dit de nous occuper, c'est-à-dire de renouveler nos pensées, de comprendre qui nous sommes, de comprendre que nous sommes déjà vainqueurs, et à partir de là, mener le bon combat qui s'appelle le combat de la foi. Et lorsque je sais qui je suis, ce que j'ai en Christ, ce que j'ai obtenu, même si un démon vient s'amuser, ou même si le diable en personne venait devant moi, eh bien je ne serais pas inquiet, je ne serais pas impressionné, je ne serais pas là à me ronger les yeux, je lui dirais « qu'est-ce que tu viens chercher? Tu es déjà vaincu. » Et je prends ma victoire. Et le problème, c'est que des fois, on est tellement à se bagarrer avec des démons qui sont déjà vaincus, mais nous, on ne le sait pas. Vous savez, eux, ils le savent, La Bible déclare que les démons connaissent Dieu et qu'ils tremblent. Ils tremblent, ils le savent qu'ils sont vaincus. Mais le problème, c'est que nous, souvent, nous ne le savons pas. Mais si nous apprenons à être renouvelés dans nos pensées, à réaliser ce que Christ a accompli, je vous garantir qu'on va gagner du temps, on va gagner en efficacité, on va gagner en maturité. L'Église a besoin de maturité. Et nous sommes dans ce temps, je l'ai déjà dit, je le maintiens, de ce que j'appelle une forme de réforme de l'Église que Dieu est en train de poursuivre, parce que je crois qu'il ne s'est jamais arrêté de vouloir amener ses enfants de plus en plus dans la conformité de ce qu'il veut, et nous sommes notamment dans un temps de maturité. Ça suffit les petits jeux spirituels, ça suffit de jouer à l'Église, ça suffit de faire beaucoup de cinéma, il est temps de devenir sérieux, de se poser les bonnes questions, d'être établi en Christ et de montrer au monde la révélation des fils de Dieu, de montrer au monde l'Église qui reflète la sagesse infiniment variée de Dieu et de montrer que cette Bible, ce que Christ a accompli, c'est pas juste une petite histoire de religion, c'est pas juste un nouveau système où on est en train de faire des choses parfois un petit peu surprenantes ou bizarres, mais de montrer que Dieu est vivant, il siège sur son trône, il est inébranlable, et que l'œuvre que Christ a accomplie est une bonne nouvelle du salut pour quiconque croit, est une nouvelle à travers laquelle notre vie est transformée, à travers laquelle nous sommes établis, nous sommes changés, nous devenons des hommes et des femmes équilibrés qui font un impact dans ce monde. Nous sommes supposés être, et je déclare au nom de Jésus que nous sommes les meilleures personnes sur la terre. Et je dis ça sans prétention, je dis ça parce que c'est ce que Dieu dit de nous. Et parce qu'il ne peut pas y avoir de meilleure personne sur terre que quelqu'un qui épouse la pensée de Dieu et qui développe en lui la nature divine, puisqu'il n'y a personne de meilleur que Dieu. Et nous sommes supposés être ces hommes et ces femmes, bien-aimés. Donc je crois dans toutes ces choses-là et je suis peut-être pas le premier, mais je suis tout à fait d'accord et parmi les candidats à imposer les mains aux malades, à chasser les démons là où il y en a, parce qu'il faut que les gens soient libérés, mais il ne suffit pas juste de chasser le démon. Quand on l'a chassé, il faut maintenant établir la vérité pour que la personne puisse progresser et aller de l'avant. Et moi, ça ne m'intéresse pas de passer dimanche après dimanche, mardi après mardi, vendredi après vendredi, à chasser le même démon de la même personne. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'investir la parole de Dieu dans nos vies et de nous faire progresser. Et c'est ça que le monde a besoin. Peut-être que le petit côté spectaculaire, parfois, qu'on a dans ces choses-là, ça plaît et on peut avoir l'impression de faire quelque chose. Mais je rappelle que ce qui est surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Dieu fait des choses extraordinaires dans le calme, dans la tranquillité. Tout comme il peut faire des choses extraordinaires dans, entre guillemets, l'excitation et le bruit, les deux sont bons. Mais il nous faut être sages, il nous faut être avertis, il nous faut être assis en Dieu pour aller de l'avant et pour progresser. Mais je suis en train d'aller très loin, donc je reviens. Nous avons parlé d'abattre les forteresses à notre sujet. Et nous avons vu que souvent nous nourrissons certaines pensées, où nous avons un certain regard sur nous-mêmes, que nous héritons, soit depuis notre enfance, quand quelqu'un peut-être nous a dit certaines paroles à notre sujet, ou peut-être nous avons grandi dans une certaine famille où il y avait un tel système de valeurs qu'il fallait absolument y être conforme et que, par exemple, on ne pouvait pas vivre de telle façon, on ne pouvait pas exprimer certaines choses parce que ça ne correspondait pas peut-être à notre rang ou à l'image qu'on devait donner autour de soi. Mais on a vu à travers la parole de Dieu qu'il est important de pouvoir être soi-même et que trop de personnes sont enfermées dans cette forteresse intérieure et ne peuvent même pas exprimer réellement ce qu'elles ressentent, ne peuvent même pas réellement s'épanouir parce qu'elles sont conditionnées par tout un ensemble de pensées. Et parfois leur cœur au fond est caché quelque part derrière ce mur, derrière ces façades, mais à travers la parole de Dieu, nous pouvons casser ces murs, casser ces façades, briser ces forteresses pour être pleinement nous-mêmes, pour être pleinement celui que Dieu veut que nous soyons et pour être à l'aise, libre, épanoui. On a vu notamment que régulièrement des pensées accusatrices peuvent se présenter à nous, mais que Christ nous a déclarés justes, qu'il nous a affranchis et que personne ne n'a le droit de nous accuser. Si Dieu nous justifie, si Christ nous a rendus purs, justes, acceptables, eh bien nous devons accepter de l'être et ne pas s'accuser à longueur de temps, se croire incapable. Il est important d'apprendre à s'aimer et à s'accepter soi-même. Parce que si quelqu'un ne s'aime pas ou ne s'accepte pas, il ne sera pas capable non plus d'aimer ou d'accepter l'autre. C'est un petit peu là que je vais me raccrocher aujourd'hui. On a également vu que nous sommes capables, nous sommes une créature merveilleuse, nous sommes aimés de Dieu. Et il nous faut garder cette image et cette pensée. Même si nous pouvons avoir un jugement particulier, parce que lorsqu'on se regarde, on n'a pas l'impression d'être peut-être une super beauté ou je ne sais pas quoi, mais nous sommes merveilleux dans le regard de Dieu. Même si nous faisons certaines choses, on a l'impression de ne pas être parfait, mais nous sommes capables de faire des choses parce que Dieu nous a fait des dons, Dieu nous a oint, Dieu nous aime. Et on a vu aussi cette chose extraordinaire que nous pouvons changer le cours des choses. Si nous marchons avec Dieu, si nous sommes en Christ, si nous réalisons notre identité et ce que Dieu est capable de faire, nous pouvons transformer les situations. Et ce monde peut voir des changements radicaux et fondamentaux à travers notre vie, à travers plus précisément l'œuvre de Christ en nous. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu poursuivre dans cette séance, on va dire, d'abattement des forteresses, si on peut dire ça comme ça. On va reprendre 2 Corinthiens 10. J'aimerais quand même qu'on relise ce verset. Et je voudrais aujourd'hui vous parler plus précisément et ensemble essayer de mettre quelques coups de marteau ou quelques coups de, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ces espèces de troncs d'arbres qu'on peut prendre pour casser une porte et une muraille. Bien, voilà, quelques coups de bélier, merci. On va mettre quelques coups encore, mais aujourd'hui les coups, on va les mettre dans une forteresse qui n'est pas celle à notre sujet, mais qui est tout aussi régulièrement présente dans la vie des gens, c'est des forteresses au sujet des autres, ou bien sur notre regard sur les gens qui sont autour de nous. Et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup aussi de forteresses à abattre. Alors 2 Corinthiens 10, au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc voilà le programme dans lequel nous sommes actuellement. Nous abattons les forteresses et nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous voulons amener nos pensées à être prisonnières, entre guillemets, de ce que Christ dit à notre sujet, de ce que Dieu dit à notre sujet. Et Christ, c'est la parole faite chair. Donc nous pouvons amener nos pensées captives à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'expression de Dieu lui-même, de son plan, de sa volonté. Quand on prend la Bible, c'est sa parole, on connaît qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il fait actuellement, ce qu'il va faire. Dieu veut se révéler à nous. Et on a besoin d'aligner nos pensées là-dessus. Et il existe certains murs invisibles que nous construisons autour de nous et qui vont beaucoup influencer notre relation avec le monde extérieur, avec les gens qui nous entourent. Quelquefois, nous n'allons pas nous approcher de certaines personnes parce que nous disons que cette personne peut-être est de telle race, ou bien cette personne vient de tel quartier, ou bien cette personne est de telle famille. Donc on a une muraille qui nous empêche d'aller vers cette personne. Juste sur des considérations d'apparence, des considérations diverses, variées, la personne peut-être ne s'habille pas comme moi, ou la personne peut-être n'a pas l'air d'avoir les mêmes habitudes que moi, la personne a des occupations différentes, la personne a peut-être un langage différent, elle est peut-être un peu étrange à mes yeux, et du coup j'ai une muraille tout de suite qui monte et je ne vais pas vers cette personne. Et parfois tout un groupe de personnes, nous l'écartons à cause de certaines pensées, de certains préjugés. Et j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, vous dire une chose très importante à comprendre, c'est que si tout le monde était comme vous, la vie ne serait pas intéressante. Si tout le monde était comme moi, je serais profondément triste. Si tout le monde était juste pareil, les uns aux autres, et à dire les mêmes choses, à penser les mêmes choses, à avoir les mêmes centres d'intérêt, la vie serait terriblement ennuyeuse. Et vous savez, Dieu se révèle dans sa création comme quelqu'un qui a une imagination débordante. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi quelques secondes, mais comment Dieu a tout créé, tout ce qui existe dans ce monde. Dieu a une imagination débordante. Et même, par exemple, un exemple que j'aime prendre, c'est même dans les couleurs. Quand Dieu a créé les arbres, les herbes, les plantes, tout ça, ben Dieu a créé des couleurs, mais il n'a pas juste fait une nuance de vert. Il y a des centaines, peut-être même des milliers, je ne sais pas, de nuances de vert dans ce monde. Si vous regardez même entre l'herbe, entre une feuille d'arbre, entre une autre plante, il y a du vert très clair, du vert plus foncé, du vert plus pâle, du vert qui tourne un peu vers d'autres couleurs. Il y a une palette infinie de couleurs dans ce monde. Non seulement il y a déjà beaucoup de couleurs en elle-même, mais chaque couleur encore a beaucoup de déclinaisons. Et quand Dieu nous a créés, il a créé chacun de nous unique. Chacun de nous avec des attributs particuliers. Il nous a créés pour un but spécial. Et la Bible dit que dans le ventre de notre mère, déjà Dieu nous tissait, Dieu nous préparait. Nous sommes tous différents, mais nous sommes voulus de Dieu comme ça. Et c'est quelque chose de terrible que de ne pas reconnaître que quelqu'un puisse être différent de moi et de ne pas accepter l'autre. Parce que d'une certaine manière, c'est même pas que d'une certaine manière, parce que lorsque je n'accepte pas la personne qui est à côté de moi ou en face de moi, en fait, je suis en train de rejeter son créateur. Si je ne considère pas quelqu'un, si je prends certaines personnes, je dis, mais ça, de toute façon, c'est pas des hommes ou ça, c'est quelqu'un vraiment, franchement, c'est même pas la peine, c'est moins que rien, il est nul, il est pas bien, il est pas comme ci, il est pas comme ça, je suis en train de critiquer son créateur. Et son créateur, c'est Dieu, notre Père à tous. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de porter des jugements et juste de mettre des barrières autour de nous sur des critères extérieurs et des choses qui ne correspondent pas peut-être à notre propre conception. Et quelquefois, on se retrouve à éviter des gens parce que, ben justement, ils ne sont pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils ne sont pas du même niveau. Mais on dit parfois aussi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et tout ça, c'est peut-être une réalité. Peut-être qu'on ne va pas avoir des affinités parfaites avec tout le monde. Mais ce que je voudrais aujourd'hui essayer de casser avec vous, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui peut changer dans nos vies si on réalise ça. Peut-être que quelqu'un va me dire, mais non, mais moi j'accepte tout le monde, j'ai pas de préjugés, etc. Mais laisse-moi te dire que si tu viens honnêtement devant le Seigneur et que tu demandes au Saint-Esprit, il y a probablement des choses pour lesquelles le Saint-Esprit va encore nous éclairer et va encore élargir nos cœurs. Pour que nous puissions faire le changement qu'il faut dans nos pensées, dans nos conceptions, pour que nous puissions abattre ces murailles qui nous retiennent, qui nous séparent, parce que très souvent, ces murailles nous séparent non seulement de quelqu'un qui est différent de nous, mais cette muraille va nous séparer de certaines clés pour notre destinée, parce que quelqu'un d'autre a peut-être quelque chose que je n'ai pas et dont j'ai besoin. Et le don de Dieu qui est dans l'autre personne est peut-être complémentaire au don de Dieu en moi. Donc en me privant d'être ouvert à l'autre et d'avoir certaines relations, je me prive en même temps de ce que Dieu a mis dans sa vie qui peut m'être utile, et je prive la personne de ce que Dieu a mis dans ma vie dont elle pourrait bénéficier. Si nous adoptons le regard de Dieu sur chacun, nous pouvons nous voir les uns les autres comme un don de Dieu. Quelque part dans les Écritures, il me semble que c'est dans Éphésiens 4, il est dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Et lorsqu'il dit ça, il dit cela pas au sujet d'un objet ou d'une bénédiction, il dit ça au sujet de personnes. Il dit ça notamment au sujet des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais on peut élargir ça parce qu'ailleurs, il est dit aussi que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce qui veut dire que chacun a au moins un don. Et ce don-là n'est pas fait que pour moi-même, et il n'est même pas fait premièrement pour moi-même. Le don que Dieu m'a donné est fait d'abord pour servir à quelqu'un d'autre. Et si je désire être servi, entre guillemets, ou profiter de ce que Dieu a mis dans sa création et dans ses créatures, les autres hommes et femmes, eh bien j'ai besoin moi aussi de me mettre au service de l'autre et d'accepter que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et quelquefois, on fait vraiment des barrières pour des choses terribles. Je suis blanc, tu es noir. Je suis jeune, tu es vieux. Je suis riche, tu es pauvre. Moi, je suis pour le PSG et puis moi, je suis pour l'OM. Et moi, j'aime le foot et moi, j'aime le basket. Et toutes des choses comme ça. Et ça nous fait sourire parce qu'on se dit que c'est franchement, c'est futile. Mais je vous garantis que des gens seraient prêts quasiment à tuer pour des choses comme celle-là. Et que des gens sont prêts à ne pas vous regarder, à ne pas vous adresser la parole, à ne pas vous considérer quoi que vous fassiez parce que vous n'êtes pas pour le même club de foot qu'eux. Ou parce que vous ne regardez pas la même émission télé qu'eux. Ou que vous n'écoutez pas la même musique qu'eux. Et on pourrait continuer la liste pendant très longtemps. Mais tout cela, consciemment en nous, ce sont des barrières que nous avons bâties. Et ces barrières ont besoin de tomber. Nous devons abattre ces forteresses. Et Dieu va nous donner la faveur et la grâce de le faire. Que lorsque nous méprisons quelqu'un, je rappelle, quel que soit le motif invoqué, nous sommes en train de mépriser le Créateur. Nous sommes en train de nous priver de quelque chose. Et vous savez, ce qui me plaît aussi de la part de Dieu, même dans l'assemblée que nous sommes et dans cette œuvre qui est en train de démarrer et de grossir, c'est que quand je parcours légèrement du regard, je vois une diversité. Je vois des gens plus clairs, des gens plus foncés. Je vois des métros, je vois des Antillais, je vois des métis. De temps en temps, on a aussi des Africains avec nous. On voit qu'il y a tout un panel, toute une richesse. Et j'aime ça, parce qu'il y a un reflet de la pensée, de la richesse de Dieu. Et bien sûr qu'on ne va pas faire des campagnes pour ça, mais c'est une diversité, c'est une richesse que nous devons nourrir. Et quand je vous regarde, je ne suis pas en train de dire, bon, ben, pour le groupe des Antillais, il faudrait que j'aille dans cette direction-là, et puis pour les métros, on va faire ça comme ça. Je dis que nous sommes là, nous sommes ensemble autour de Christ. Et ce qui nous rassemble, c'est quoi? C'est pas qu'on a fait une campagne de recrutement en disant « Bon, il nous faudrait quelques Antillais, il nous faudrait aussi quelques métros pour faire bien, et puis il nous faudrait peut-être encore quelques Africains, quelques Chinois ou je sais pas quoi. » Non, ce qui nous rassemble, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est le message de Christ. Parce que Dieu est un, Dieu nous rassemble, Dieu nous unit. C'est un message de vie, un message de grâce. Et vous savez, vous pourriez être, peu importe d'où vous pouvez sortir, ce qui nous rassemble, c'est Christ. Et on se retrouve tous en Dieu parce qu'il est notre Père à tous. Et je me rappelle d'une histoire que j'ai entendue, d'une petite fille qui marchait avec sa maman et qui dit à sa maman, mais maman, sur la terre, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a beaucoup de sortes de personnes, mais Dieu, il est de quelle couleur? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et là-dessus, il y a beaucoup de débats, et il y a des gens qui cherchent à prouver à tout prix que Dieu est d'une certaine couleur, ou qu'il est d'une certaine race, ou je ne sais pas quoi. Et puis la maman lui a fait une réponse très intéressante. La maman lui a répondu, « C'est ma chérie, Dieu est de toutes les couleurs en même temps. Parce que si tu mets toutes les couleurs ensemble, ça donne le blanc, ça fait la lumière. Et Dieu est lumière, la Bible déclare. Donc Dieu, il est de toutes les couleurs. On dit que le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Donc Dieu est de toutes les couleurs. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est lumière, Dieu est vie, Dieu est la source de tout ce que nous pouvons voir et connaître dans ce monde. Et on n'a pas à se poser la question, est-ce que Dieu est blanc, noir, est-ce que Jésus est juif, ou bien est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est? Ce qui importe, c'est le message qu'il est venu nous apporter. Et Christ est venu réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Et lorsque l'apôtre Pierre a été d'abord touché par Dieu pour commencer à parler aux païens, parce qu'au début, l'évangile était uniquement prêché parmi les juifs, et un beau jour, Pierre se trouve sur sa terrasse et il a une vision. Et Dieu lui montre beaucoup de choses à manger qui pour lui étaient considérées impures. On voit ça dans le livre des Actes, chapitre 10. Et Pierre refuse de manger ces choses-là parce qu'il sait que c'est impur selon la loi de Moïse, etc. Et Dieu était en train de lui enseigner quelque chose. Et quelques instants plus tard, Dieu appelle un homme à venir le rencontrer et à l'amener quelque part. Et c'est la première fois que l'évangile va être prêché parmi les païens, parmi les non-juifs. Et à ce moment-là, c'est Acte 10, ouais, enfin, je ne sais pas si vous voulez chercher rapidement, mais à ce moment-là, la Bible dit que Pierre n'avait même pas fini de prêcher, que le Saint-Esprit est déjà descendu sur ces personnes, et les Juifs qui regardaient étaient étonnés de ce que des païens puissent recevoir aussi le Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu, lui, ne faisait pas de différence. Certes, l'Évangile est arrivé d'abord dans la nation d'Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, mais ensuite il s'est adressé aux autres. Et merci Seigneur pour Pierre qui a accepté d'abattre cette muraille qu'il avait. Il a quand même combattu quelques instants, je pense, dans ses pensées, en disant « Mais ça, c'est impur. Pourquoi, Dieu, tu me montres des choses impures ?» Mais il a accepté de dépasser cette frontière, de dépasser la muraille invisible et de dire « Ok, on va prêcher l'Évangile. » Et il y a eu des résultats. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons entendu l'Évangile parce qu'un jour, les disciples et les apôtres ont accepté d'aller au-delà de leurs limites et de prêcher l'Évangile à toute la création comme c'était prévu. C'est bien ça. Colossiens 3, 21, la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni antillais, ni métro. Ni blanc, ni noir. Et on peut continuer la liste très longtemps. En Christ, nous sommes un, nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Nous sommes de sa lignée maintenant. Nous avons le sang de Christ qui coule dans nos vies, Colossiens 3, 11. Et Dieu nous montre régulièrement dans sa parole ce genre de réalité qui ne fait pas de différence, qui ne fait pas de favoritisme. Et c'est important pour nous aussi de nous aligner sur la pensée de Dieu et sur le regard de Dieu sur les autres. Colossiens. Colossiens 3, 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Donc peu importe d'où vous sortez, ou d'où je sors, Christ est tout en tout. C'est-à-dire que du moment que nous sommes en Christ, ce qui importe, ce n'est plus qui je suis, mais c'est Christ qui est en moi. Et même quand je regarde autour de moi et que je vois des gens de ce que nous appelons, entre guillemets, du monde, il y a une grosse muraille à casser aussi. Vous savez, les chrétiens disent, ouais, il faut évangéliser tout ça, mais on est derrière des murs fortifié à plusieurs couches et à plusieurs niveaux en disant « Ah, les gens du monde, il faut pas les fréquenter. Ah, il faut pas toucher, c'est les gens du monde. » Mais tu sais quoi, si tu es derrière des murailles et que tu n'as jamais affaire au monde, comment tu vas leur apporter l'évangile de Jésus-Christ? Et comment tu vas leur amener quelque chose? Bien sûr qu'on ne doit pas prendre part aux œuvres des gens du monde, mais nous sommes une lumière pour être la lumière du monde et pas pour se cacher derrière nos forteresses et attendre gentiment que Jésus revienne. Nous sommes appelés à être dans ce monde, témoins vivants, efficaces, mais trop souvent on est derrière cette barrière en disant « Ah, ça c'est du monde, j'y vais pas. Lui, il n'est pas chrétien, j'y vais pas. Ouh, lui, il fume, oh là là, ouh !» Eh ben oui, mais si tu ne lui parles pas peut-être un jour du Seigneur et qu'il peut être délivré de sa cigarette ou de son alcoolisme ou de tout ce dans quoi il est en train de sombrer, comment il va s'en sortir? Et Jésus lui-même a dit « Moi, je ne suis pas venu pour ceux qui vont bien, je suis venu pour ceux qui sont malades, qui ne vont pas bien. » Et les gens régulièrement critiquaient Jésus en disant « Oui, mais lui, il traîne avec les gens de mauvaise vie. Il traîne avec un Zachée qui est voleur. Il traîne avec des gens qui aiment manger et boire. » Dieu nous voit tous de la même façon. Il nous voit comme ses enfants. Et vous savez quoi, même quelqu'un qui est encore dans le péché, Dieu le voit déjà comme son enfant, comme sa créature qu'il aime, qu'il a créée et il veut à tout prix la racheter. La Bible déclare que avant même, pendant que nous étions encore dans les ténèbres, il nous voyait déjà, il nous aimait déjà, il a déjà pourvu à notre salut. Si un jour quelqu'un ne vous avait pas dit « Mais tu sais, Jésus t'aime et tu peux t'en sortir de là où tu es et tu peux aller de l'avant », vous ne seriez peut-être pas là maintenant. Et Dieu vous a aimé avant que vous ne soyez chrétien, entre guillemets. Dieu vous a aimé depuis que vous étiez en train de passer à côté du but, que vous étiez en train de faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais son amour voulait vous amener à la repentance et maintenant à progresser. Nous avons besoin d'avoir le regard de Dieu. Quand on voit les gens autour de nous, et c'est un défi pour beaucoup de personnes, quand je vois des jeunes avec leurs boosters et avec des attitudes bizarres, de toute façon c'est des délinquants, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais Dieu voit derrière un don de Dieu pour sa génération. Dieu voit dans ces personnes-là des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui ont un potentiel, qui peuvent devenir quelqu'un, qui peuvent progresser. Et peut-être qu'un jour, il faut que quelqu'un leur parle de ça, leur disant qu'il y a une meilleure voie que ta drogue, ton alcool, ton vol, ton sexe et tout ça. Il y a une autre voie, c'est Jésus-Christ. On n'a peut-être pas tous le don, le talent, la facilité d'aborder les gens, mais on a tous le droit et le devoir d'avoir le regard de Dieu, un regard d'amour sur les gens qui nous entourent. Peut-être que quelqu'un n'aura pas le courage ou la facilité d'aller vers ces gens parce qu'on est mal à l'aise, etc. On a le devoir, quand on passe à côté, d'avoir un regard d'amour, un regard respectueux, un regard qui dit tu es quelqu'un de valeur. Et ce sont des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de rencontrer leur sauveur. Mais il y a des murailles à casser, il y a des murailles à faire tomber. Donc ne faisons pas l'erreur de juger les personnes juste au premier regard. Ne faisons pas l'erreur non plus de juger toute une race à cause d'un événement. Peut-être qu'un jour une personne d'une certaine race ou d'une certaine culture, peut-être la personne vous a trompé, vous a escroqué, vous a volé. Et à partir de ce jour-là, vous êtes là à vous dire de toute façon, ces gens-là, c'est tous des voleurs, c'est tous des escrocs. C'est une muraille qu'il faut abattre. Parce qu'il y a partout des bons, il y a partout des mauvais aussi. Ils ne pourront pas construire une muraille là-dessus. Il y a des gens qui sont là, qui voient les blancs en disant de toute façon, ils sont venus pour profiter, pour nous exploiter. Parce que c'est vrai, il y a eu des choses terribles à travers l'esclavage. C'est pas parce qu'il y a quelques générations, certaines personnes ont abusé d'un certain pouvoir ou de certaines ressources pour mettre d'autres personnes sous un joug qu'aujourd'hui tous les blancs veulent mettre tous les noirs sous l'esclavage. Et nous restons parfois enfermés dans ces choses-là. Et ça vous empêche de bénéficier de ce que Dieu a mis dans l'autre personne. J'ai beaucoup suivi la forme de déportation qui s'est passée au temps d'Hitler où ils ont arrêté beaucoup de juifs de tous les pays en Europe et qu'ils les ont envoyés en déportation en Allemagne, en Autriche, etc. Et où ils les ont fait travailler, ils les ont tués cruellement, ils ont fait des choses terribles. Ils ont passé dans les chambres à gaz, d'autres ils les ont brûlés, d'autres ils ont utilisé même leur peau, leur corps, tout ça pour faire des essais chimiques, etc. Et c'est des choses terribles qui se sont faites, mais vous savez, il y a des choses extraordinaires. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez interroger certains juifs qui sont des descendants de personnes qui ont été déportées. Et ils peuvent vous dire qu'ils n'ont rien contre des Allemands. D'autres vont garder un ressentiment en disant « Ouais, mais les Allemands, ils nous ont oppressés, ils nous ont persécutés, etc. » Mais ce n'est pas parce qu'un homme, Hitler, a abusé de sa puissance et a entraîné derrière lui tout un peuple que tous les Allemands sont mauvais et méchants et le seront toujours. Et les exemples pourraient se multiplier. Il y a ces problèmes-là dans d'autres pays, entre entre la Chine et le Japon, ou bien la Corée, quand il y a eu des invasions, des fois il y a des choses terribles qui se sont faites, mais nous ne pouvons pas enfermer une race de personnes ou une nationalité ou un groupe de personnes derrière un événement isolé. Ils ont besoin de casser ces murailles, ils ont besoin de les abattre. Disons, certes, il y a eu des choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, je crois dans le meilleur des gens. Aujourd'hui, je crois que peu importe de quel arrière-plan vous êtes, d'où vous venez, d'où vous sortez, il y a quelque chose en vous qui peut m'être profitable, et ce que j'ai, je désire aussi le mettre à profit. Vous savez, même dans l'Église de Jésus-Christ, des fois, il est triste de remarquer, et moi, en tout cas, c'est un constat qui m'attriste, que je trouve vraiment dommage. Ici, c'est peut-être un peu moins flagrant, parce que on a une population un peu différente, mais par exemple, si vous faites un tour en région parisienne, et je dis ça avec beaucoup de respect pour les œuvres de Dieu et les pasteurs de la région parisienne, mais je suis toujours un peu sceptique en voyant toutes ces églises que même les médias qualifient d'églises ethniques, parce qu'effectivement, elles sont ethniques. C'est-à-dire que, ben voilà, je suis africain, il y a quelques Africains, on se réunit, on fait une église entre nous, avec notre manière, en faisant les choses d'une façon, etc. Et puis les Chinois vont faire leur église entre eux. Et puis les Français vont faire les choses entre eux. Et puis les Antillais vont faire quelque chose entre eux. Et puis toutes les nationalités vont faire les choses entre eux. Alors certes, il y a peut-être une affinité naturelle qui fait qu'on se retrouve, mais il est triste quand c'est une volonté délibérée de faire les choses entre nous. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, nous sommes tous une famille, la famille de Dieu. Nous pouvons tous ensemble nous retrouver. Et on n'est pas là pour rester entre nous. Et maintenant, sans parler de race ou de nationalité. Je sens que je suis en train d'aller très loin là, mais je pense que le Seigneur a encore à nous parler et à aller élargir nos cœurs. Parce que moi je suis catholique, je ne veux surtout pas avoir affaire à un évangélique. Parce que moi je suis de l'église évangélique, je ne veux surtout pas avoir affaire à un pentecôtiste. Parce que je suis assemblé de Dieu, en dehors des assemblées de Dieu, je ne veux surtout fréquenter personne. Parce que je suis d'une église indépendante, je ne veux surtout pas voir les autres chrétiens de peur de je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas ce que j'ai cité ou pas, mais on pourrait continuer la liste avec tous ces mouvements et ces dénominations, mais vous savez quoi, on est complètement à côté. Quand Dieu regarde son église, il voit pas une assemblée pentecôtiste, une assemblée baptiste, une assemblée protestante, une assemblée charismatique. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit les cœurs transformés, tous ceux qui sont nés de nouveau. Et parmi ceux qui sont nés de nouveau, vous en trouverez dans un bâtiment d'église catholique, vous en trouvez dans des églises évangéliques, dans des églises pentecôtistes et autres. Et pareil, dans toutes ces églises, vous trouvez aussi des cœurs noirs et endurcis qui n'ont pas reçu Jésus, qui ont juste épousé une tradition, une religion. Abattre les forteresses au sujet des autres, dans nos relations, vis-à-vis des gens qui nous entourent. Le monde parle peut-être de tolérance. Moi, je ne parle pas que de tolérance, je parle d'amour, de reconnaissance, d'acceptation. Dieu ne nous engage pas à nous tolérer les uns les autres. Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres ». J'ai évolué, moi, personnellement, dans plusieurs de ces milieux ou dénominations, mais ce qui fait que moi, je suis à l'aise et je suis capable de saluer, de rencontrer, et voire même, pourquoi pas, d'avoir des projets avec n'importe quel chrétien né de nouveau. C'est que mon fondement, c'est pas de savoir si je suis protestant. C'est vrai, je suis né protestant, j'ai été baptisé protestant luthérien. Ensuite, j'ai fréquenté une église évangélique quand j'étais petit. C'est d'ailleurs là que j'ai reçu le Seigneur. Et puis, j'étais dans une église qu'on appelait du plein évangile, où j'ai découvert la dimension du Saint-Esprit. Puis, j'ai été dans un milieu charismatique où c'était beaucoup plus encore la liberté de l'esprit et toutes ces choses-là. Puis, j'étais dans le mouvement de la parole de foi. On était vraiment dans la parole et enseigné. Mais tout au long de ce chemin, j'ai pour moi, dans mon cœur et dans ma pensée et la position de mon cœur, sincèrement, je suis tout cela en même temps et rien de tout cela non plus. Moi, je suis simplement un croyant qui croit la Bible, qui croit la parole de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et tout le reste, ce sont, entre guillemets, des détails. C'est peut-être notre sensibilité personnelle qui fait que quelqu'un va se sentir plus dans une église, un autre plus dans une autre église. Peu importe, mais ici, on est tout cela à la fois et puis rien de tout ça. Et si je devais mettre une pancarte, quelquefois, je me serais amusé à marquer une pancarte avec marqué « Église chrétienne, protestante, évangélique, pentecôtiste, baptiste, tout ce que vous voulez » parce qu'on est tout ça en même temps. Mais pour simplifier, on enlève tout ça, on met juste centre Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu, c'est tout. Et la vie de Dieu, elle est universelle, entre guillemets. Bien sûr, la base, c'est la nouvelle naissance et la repentance. Faut pas tomber dans n'importe quoi. Mais je dis que la vie de Dieu, elle est la même pour tout le monde. Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul plan de Dieu pour son Église, il n'y a qu'une parole de Dieu, et cette parole ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière, mais d'être éclairée par le Saint-Esprit pour changer nos vies. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et nous, moi, je suis fier de ça. Parce qu'on n'est pas juste là pour suivre un mouvement ou pour rentrer dans un cadre. certes, j'ai des relations, je suis en communion avec d'autres églises, d'autres ministères, et ça, c'est une très bonne chose. Vous savez quoi? Même dans nos relations et dans nos réseaux, et Sophie peut en témoigner, il y a des gens qui sont très différents les uns des autres. Mais nous aimons nous retrouver dans ces cas, dans cette association aussi que nous avons, et d'échanger régulièrement et de s'entendre nous rencontrer. Et parmi les pasteurs avec qui nous travaillons, certains ne font pas du tout les choses de la même manière que nous. Mais nous recherchons tous la même chose, être de plus en plus semblable à Christ, se laisser transformer par lui et devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est ça qui est important, qui est essentiel. Et il est temps, et plus que temps, d'abattre, mais une bonne fois pour toutes, ces forteresses qui nous retiennent vis-à-vis des frères et sœurs, peu importe leur arrière-plan, vis-à-vis du monde qui nous entoure, et de voir en eux quelque chose que Dieu leur a mis, de voir en eux la vie de Dieu, de voir en eux un don précieux de Dieu, et de pouvoir partager ce que nous avons reçu. Et le Seigneur nous engage à aller de l'avant avec lui, à toujours progresser, à toujours rechercher davantage sa ressemblance, parce qu'on peut apprendre les uns des autres, on peut grandir les uns et les autres. Donc, on a besoin de s'ouvrir, d'avoir une vision élargie, de s'accepter mutuellement, et d'abattre les forteresses, de changer notre mode de pensée au sujet des gens qui sont autour de nous, au sujet de ce que nous voyons, de nos relations, pour réellement entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et la parole nous montre beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas être long. On va juste reprendre deux lectures. Et je propose de revenir à Romains 12. Et après, je vais laisser tout ça mijoter dans votre cœur, être assaisonné par l'onction du Saint-Esprit, pour qu'on soit encore un peu plus affranchi de nos jugements, de nos raisonnements. Romains 12. Romains 12, on va continuer simplement au verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que, tous les membres n'ont pas la même fonction, aussi nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en profession de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, etc. Et vous pouvez continuer à lire tout ça. Et ça fait partie de ce programme de rénovation mentale. Il vient dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et tout de suite derrière, il enchaîne en disant, attention, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Ne pas avoir une trop haute ne veut pas non plus dire d'en avoir une trop basse. Je crois qu'on a abattu quelques forteresses là-dessus. Et je vais juste vous donner deux, trois versions. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Donc, il n'est pas dit de ne pas avoir de prétentions du tout. Il est dit de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Donc, c'est quoi? C'est dire que je dois avoir un regard juste sur moi-même et aussi, bien sûr, considérer les autres. Le problème, c'est que si je suis déraisonnable et excessif, je vais considérer que je suis le seul à savoir faire quelque chose, je suis le meilleur dans tout et donc je vais mépriser l'autre. Mais si j'ai une image équilibrée sur moi-même et que je suis à l'aise, au clair, que j'ai accepté qui je suis, ce que je suis, avec mes capacités et mes limites, je serai aussi capable de reconnaître chez l'autre ce qu'il a, et de ne pas non plus l'écraser ou l'oppresser à cause de ses limites. La Bible Darby dit de ne pas avoir une trop haute pensée de soi-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir des saines pensées. Encore une fois, il est juste dit de ne pas penser au-dessus de ce qu'il faut. Mais pareil, pas non plus en deçà. Mais si nous sommes au clair, les choses vont être beaucoup plus simples. Et finalement, la Bible en français courant nous dit « N'ayez pas de vous-même une opinion plus haute qu'il ne faut, mais que chacun de vous s'estime d'après la part de foi que Dieu lui a donnée. » Et ce que j'aime là-dedans, c'est que la foi, vous savez, c'est quelque chose que nous pouvons faire évoluer et grandir. Alors, je ne vais pas ouvrir un enseignement sur la foi, mais c'est-à-dire que nous devons nous estimer selon la part de foi que nous avons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, peut-être il y a des domaines où je suis bien, je suis établi, je progresse, je vais estimer ces choses-là. S'il y a d'autres situations où je ne suis pas au point, je ne vais pas faire comme si j'étais bon partout et au top. Je vais reconnaître que j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Et idem dans mon regard sur les autres. Je vais reconnaître que peut-être il a des faiblesses, mais je vais chercher là où il est fort. Et pour finir, 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. Et je clôture avec ça. Je voudrais juste qu'on puisse vraiment faire tomber tous ces murs qui nous retiennent de s'ouvrir, d'aller au-delà de nous-mêmes, d'aller vers ceux qui sont différents, d'accueillir l'autre tel qu'il est aussi. 1 Corinthiens 13. Bien sûr, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hymne à l'amour. On va prendre juste au verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, ce qu'on peut voir ici, entre autres, bien sûr, dans nos relations avec les autres, mais c'est que si nous nous laissons animer de l'amour de Dieu, en adoptant son regard sur les autres, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas être suspicieux. Quand quelqu'un se présente à nous, on ne va pas commencer par se dire qu'est-ce qu'il me veut, comment il va me nuire. On ne va pas commencer par se dire mais cette personne-là, c'est pas clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Certes, nous devons avoir du discernement, mais je dis que nous ne devons pas juger rapidement. Nous ne devons pas rester enfermés dans nos préjugés. Nous devons ouvrir nos cœurs, nous attendre au meilleur chez les autres. Et même si quelqu'un ne fait que d'exposer beaucoup de défauts, peut-être de méchanceté, peut-être de violence, peut-être une apparence négative, mais faites tous vos efforts pour chercher chez la personne juste quelque chose de bon. Et une fois que vous l'avez trouvé, mettez l'accent sur ce qu'il y a de bon chez cette personne. Vous allez changer cette personne, vous allez la transformer. De la même manière que Dieu, pendant que nous étions, nous connaissons tous notre histoire personnelle. Certains étaient peut-être, entre guillemets, pires que d'autres d'un point de vue humain. Mais peut-être que pendant que nous étions en train de faire tout ce que nous faisions avant de le rencontrer, peut-être qu'au premier regard, il ne serait pas venu vers nous. Il aurait dit, ben écoute, toi, c'est foutu, c'est l'enfer. Tu mens, tu voles, peut-être que tu fumes, peut-être que tu te drogues, peut-être que tu fais ci, peut-être que tu as fait ça. Une chose, mais Dieu a regardé au plus profond de nous-mêmes. Il a fixé et il a cherché quelque chose de bon en nous. Et quand Dieu vous regarde aujourd'hui, même quand vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes repenti, parfois on s'en veut, on se dit, je suis incapable, je ne fais pas bien les choses, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Mais vous savez quoi? Quand Dieu vous regarde, il cherche à tout prix ce qu'il y a de bon chez vous. Et quand Dieu vous regarde, il ne commence pas par vous accuser pour ce qui ne va pas, il commence à regarder ce qui est bon et te dit, voilà ça, tu sais faire ça, tu es bon dans ça, continue, vas-y, progresse. Et si Dieu est capable de nous regarder dans le meilleur angle, qui sommes-nous pour ne pas regarder les autres aussi dans le meilleur angle? Et si quelqu'un peut-être te paraît désagréable ou quoi, cherche quelque chose de bon, je dis, mais tu sais ça, tu es bon dans ça. C'est ce que vous allez appeler à se développer, ce que vous allez appeler pardon, à être favorisé. Donc voyons ce qu'il y a de bon chez l'autre, favorisons ses atouts, ses capacités. Voyons-nous les uns les autres comme complémentaires, comme ayant chacun une partie du puzzle, mais nous n'avons pas tout. Mais ensemble, nous pouvons former ce corps de Christ, cette église glorieuse, les uns avec les autres. Nous pouvons nous encourager, nous fortifier et accomplir notre mission, notre destinée, tous ensemble. Tous ensemble. Et on veut vous donner le meilleur. Moi, mon cœur, c'est vraiment de autant que je peux, de mettre à votre service le don de Dieu, le don que Dieu m'a donné. Et je m'attends, et sincèrement, je désire et je crois qu'en chacun de vous, il y a des richesses. Il y a des choses extraordinaires, il y a un don de Dieu et je veux le voir se manifester. Et dimanche après dimanche, réunion après réunion, je veux et je continue d'essayer d'exciter en vous ce qu'il y a de meilleur. Même s'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bonnes et peut-être que j'en vois, mais je choisis de regarder à ce qui est bien et à dire, mets l'accent sur le meilleur, progresse, grandis, confie-toi en le Seigneur et dépasse tes limites. Donc, laissons vraiment Dieu encore élargir nos cœurs aujourd'hui, nous amener à dépasser ces murs invisibles, à laisser nos traditions, nos préjugés de côté et à regarder avec un œil tout neuf, avec le regard de Dieu, un regard d'amour. Et plus on va commencer à s'ouvrir aux autres, plus les autres vont être enrichis parce que nous avons quelque chose à leur donner et plus nous-mêmes aussi nous allons être enrichis, nous allons grandir parce que nous avons quelque chose à recevoir et Dieu sera glorifié à travers ça. Ça vous plaît ça comme programme? Vous croyez que c'est un plan de Dieu ça pour nous? Vous croyez qu'on a quelque chose à gagner, à s'ouvrir? Et vous croyez qu'il est temps de casser ces forteresses? Alors soyons ceux et celles qui montrent l'exemple, qu'il est temps que nous soyons un signe dans notre génération. Prions le Seigneur de nous guérir, de nous affranchir et soyons des signes dans l'Église, mais aussi dans le monde. Soyons ouverts, abattons les forteresses, et voyons comment Dieu va pouvoir faire circuler sa grâce, sa bénédiction, ses bienfaits des uns vers les autres, parce que nous avons cassé les murs et nous lui avons permis de nous utiliser pour être une bénédiction les uns pour les autres. Amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.